Vous écoutez France Inter, il est 13h. L'heure de votre journal, Fabien Fourel. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous. Les routes en surchauffe. Plus de 1000 km de bouchons enregistrés ce samedi. Presque un record. Le grand chassé-croisé de l'été au son des klaxons, au son des valises aussi. 1 million de voyageurs dans les gares pour ce week-end le plus chargé de l'année. Des airs de guerre froide entre Russie et États-Unis après l'annonce de Donald Trump du déploiement de 2 sous-marins nucléaires. On verra pourquoi Washington hausse le ton. À suivre aussi un code européen de bonne conduite pour l'intelligence artificielle. Il entre en vigueur aujourd'hui. Que va-t-il changer? Que va-t-il réguler? On le verra avec notre invité. La contre-attaque de la défense du footballeur du PSG, Achraf Hakimi, accusé de viol. Et le Tour de France femmes, étape cruciale avec l'espoir de voir Pauline Ferrand-Prévot maillot jaune. La météo pour cet après-midi, Magali Rochereau. Le temps reste perturbé sur le nord-est du pays.
Oui Fabien, contrairement à la partie ouest où Météo France prévoit un après-midi splendide sur les plages de la Manche et de l'Atlantique.
Le temps en détail à la fin de ce journal.
France Inter.
Chassé, croisé, pressé, collé. Week-end le plus chargé de l'année sur les routes, on va le voir dans un instant. Et dans les trains, plus d'un million de voyageurs attendus. Les gares au rythme des valises dans le sud, à Lille, Bordeaux ou à Paris. Gare Montparnasse, la grande transhumance en TGV, ça donne ça. Emma Vlogimlachi.
Des familles qui tirent à la fois poussettes et valises, des couples en sac à dos ou encore une colonie de vacances. Marie et sa fille Judith partent à Saint-Hilaire-de-Riez.
Il y a un manque de fou, mais de toute façon, ma voiture ne me permet pas de prendre l'autoroute. Elle est trop vieille, donc là, clairement, le train me sauve la vie.
Et quand on a le choix, le train reste la bonne solution, selon Alice, venue rendre visite à ses parents à Paris.
Il y a un peu de monde, mais on sort vite, on peut vite aller un peu dehors. C'est plus sympa que sur les aires d'autoroute, quand même, malgré tout.
Moins stressant et plus confortable.
Si on est un peu fatigué, c'est pas grave, on conduit pas. Voilà, on peut faire autre chose, on peut lire, on peut écouter de la musique, faire un petit jeu, dormir.
Même son de cloche pour Milan, 6 ans.
Je préfère les trains, parce que je peux un petit peu plus bouger.
Son papa, Laurent, ne lui laisse de toute façon pas le choix. Prendre le train, c'est un principe écologique.
Ça va faire 5 ans maintenant que je prends plus l'avion, donc... Il nous faut prendre le train, un train pour aller jusqu'à Paris et ensuite un autre train pour aller jusqu'à Bordeaux.
Il ne leur reste plus qu'à trouver la voie de départ de leur train.
Et du monde dans les trains mais aussi sur les routes. Bison Futé classe la journée noire, déjà plus de 1000 km de bouchons cumulés ce midi et l'appel à la prudence des autorités. Ne laissez pas la fatigue prendre le volant, rappelle la Fondation Vinci Autoroute, invitant les automobilistes à faire des pauses toutes les 2 heures. Pourquoi pas sur une aire où des associations viennent lire des livres aux plus petits. Reportage près du Mans, William Delesseux.
À la sortie de la voiture, Marine fait enfin une pause sur sa route vers la Loire-Atlantique. Elle est partie des Yvelines avec son fils Maël, 3 ans.
Je pense qu'il faut trouver beaucoup d'activités, puisque pour eux c'est assez long. Nous on a 3h30. Des livres, beaucoup de livres. Puis beaucoup de patience pour papa, maman, au final. Mais lui, il a jamais trop aimé être assis et contraint, donc de base.
Derrière l'aire de jeu et le parking, des transats et une natte de sol, Brigitte et Martine, la soixantaine, ici chantent et lisent des livres aux plus petits voyageurs qui s'arrêtent. Elles viennent d'une association de promotion de la lecture dans les environs.
Mardi, le pingouin, l'hippopotame à vélo, le lion farceur et la fanfare des amis de Babar sont venus chez moi pour me... serrer la pince. On s'installe, on regarde des images, les parents s'assoient, participent et j'ai l'impression qu'ils repartent contents, certainement reposés. Le petit problème, c'est qu'ils ont beaucoup de route à faire et ils n'ont pas le temps de rester trop longtemps.
Prendre 10 minutes de plus, c'est l'idée aussi.
Et avant de reprendre la route, les parents peuvent aussi emporter un folio sélectionné par la romancière Lilia Hassen. Des classiques ou pas, Marguerite Duras, Emmanuel Carrère, à lire sur la plage.
William Delesseux, courage si vous nous écoutez sur la route et pour ceux qui peuvent partir demain, sachez que la journée sera classée jaune dans le sens des départs, de la prudence aussi au bout de la route. Dans le sud, près des massifs forestiers, alerte orange, aux feux de forêt dans 8 départements, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Corse et le Var. Un coup de chaud, une fièvre diplomatique au lendemain de l'annonce de Donald Trump du déploiement de 2 sous-marins nucléaires en réaction à des propos qualifiés d'incendiaires de Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, réagissant à l'ultimatum de Donald Trump pour mettre fin au conflit ukrainien, a parlé d'un pas vers la guerre avec les États-Unis, évoquant la main morte, cette menace nucléaire russe digne d'un roman d'espionnage. Jean-Didier Revoin, vous êtes à Moscou pour Inter, très exactement, cette main morte, c'est quoi ?
Périmeter, ou en russe Mertvaya Ruka pour main morte, est un système semi-automatisé de déclenchement de l'arsenal nucléaire. Il a été conçu par les soviétiques au moment de la guerre froide pour permettre de lancer des missiles en réponse à une attaque américaine surprise pour le cas où le système de commandement et de contrôle aurait été détruit. Face au danger de voir ce système se déclencher accidentellement, ses concepteurs avaient toutefois trouvé un moyen d'ordonner aux missiles de s'autodétruire en vol. La mention de cette main morte par l'ancien président russe Dmitri Medvedev a fait réagir Donald Trump au quart de tour ou presque. Dans la foulée, le président américain a en effet ordonné que deux sous-marins nucléaires soient positionnés dans les zones appropriées, au cas où ces déclarations jugées idiotes et incendiaires soient plus sérieuses que cela. Une escalade qui reste verbale, bien sûr, mais qui traduit bien la tension actuelle entre Moscou et Washington, qui a donné jusqu'à vendredi prochain à Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, sous peine de lourdes sanctions. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
La guerre avec l'Ukraine pendant ce temps se poursuit malgré l'ultimatum américain. 3 morts côté russes tués par des frappes ukrainiennes de drones la nuit dernière au sud du pays. Et c'est dans ce contexte très lourd que l'émissaire américain Steve Witkoff est attendu cet après-midi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Avant ça, il a rencontré ce matin des familles d'otages israéliens retenus à Gaza. À noter également cette déclaration, l'État hébreu continuera le combat sans répit, prévient ce samedi le chef d'état-major de l'armée israélienne, tant que les otages israéliens dans l'enclave ne seront pas libérés. Bruxelles ouvre une nouvelle ère dans la régulation des technologies avec un règlement européen autour de l'intelligence artificielle. Il entre en vigueur aujourd'hui. Une réponse des 27 à l'urgence de réguler l'IA, aussi fascinante qu'inquiétante. Bonjour Muriel Popa-Fabre.
Bonjour.
Vous êtes experte en intelligence artificielle auprès du Conseil de l'Europe. D'abord concrètement, de quel risque ce règlement est-il censé nous prémunir ?
Des risques qui sont inacceptables en Europe, comme la manipulation, comme l'utilisation de l'IA pour influencer l'opinion. Et ça, c'est des risques qui sont les plus importants et les plus qui sont totalement bannis. Et puis, il y a une série de risques qui ont une graduation, qui vont jusqu'au risque important, très haut risque et risque moins important. Et c'est une réglementation qui est extrêmement souple parce que dans les annexes, on peut mettre à jour quels sont les risques parce que la réglementation a voulu réglementer les usages et non la technologie en elle-même.
En fait, on a envie de savoir comment les IA apprennent pour ne pas qu'elles se trompent dans le quotidien en quelque sorte.
Et donc, c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, les modèles qui sont mis sur le marché, les modèles les plus puissants d'IA, doivent respecter des obligations de transparence. Et notamment sur les données d'entraînement des modèles. Et la transparence, elle est importante pour plein de questions qui sont vraiment éminemment techniques, mais aussi parce qu'elle permet d'avoir un niveau d'ouverture de la part des fournisseurs d'IA et des développeurs d'IA pour qu'ils respectent la propriété intellectuelle européenne.
Et justement, Muriel Popa-Fabre, comment la plupart des entreprises du secteur réagissent aujourd'hui ? Elles sont principalement américaines, Google, Meta, elles ont un discours très libéral, anti-régulation. On imagine qu'elles sont plutôt réfractaires ?
Il y a en effet un discours qui est un discours de dérégulation aux États-Unis, qu'il soit porté par les pouvoirs publics ou par les entreprises. Mais malgré ce discours, il y a le souci de l'unité du marché européen, qui est un marché très intéressant. Et ce qu'on voit dans les faits, c'est que le code de bonne pratique qui aujourd'hui doit être respecté par des signataires volontaires a vu la signature de OpenAI, de Google, de Mistral, mais aussi de fournisseurs d'IA comme Microsoft, Amazon, IBM.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque, Muriel Popa-Fabre, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce cadre freine quand même l'innovation face aux États-Unis ou à la Chine qui font le pari d'une IA décomplexée ?
Alors, la Chine n'a pas forcément fait le pari d'une IA décomplexée. Elle a réglementé avant l'Europe et de façon beaucoup plus capillaire et technologique en réglementant vraiment les algorithmes et pas les usages. Mais par contre, c'est le cas aux États-Unis. Il n'y a pas encore une loi fédérale sur l'IA pour le moment. Par contre, le Congrès était préoccupé jusqu'à il y a quelques semaines de faire avancer une loi qui empêcherait les États de réglementer l'IA. Pour et ça a été refusé par le Sénat en début juillet. Mais l'idée, c'était, comme en Europe, de prévenir la fragmentation du marché américain. Ça veut dire que si vous avez des réglementations d'IA dans chaque État individuel, vous ne pouvez pas avoir un produit qui marche pour tous les États-Unis ou un produit qui marche pour toute l'Europe.
Rapidement, juste Muriel Popa-Fabre, est-ce que ça peut avantager les entreprises européennes, les entreprises au cœur des 27 ?
Je pense que oui, très clairement. Et c'est une possibilité pour conjuguer à la fois la science, où l'Europe est encore en bonne position, et l'intérêt des utilisateurs. Et avoir quelque chose de responsable et d'éthique au cœur des produits et des services d'IA.
Merci à vous, Muriel Popa-Fabre, experte en intelligence artificielle auprès du Conseil de l'Europe. Un nouvel équipage s'est amarré avec succès à la Station Spatiale Internationale ce matin. 4 astronautes, 2 Américains, 1 Japonais et 1 Russe séjourneront pendant 6 mois. C'est la 11e mission de rotation d'équipage vers l'ISS. L'objectif cette fois, simuler des scénarios d'alunissage pour anticiper un retour américain sur la Lune. Une saisie historique de drogue en Polynésie française annonce sur le réseau X Bruno Retailleau. Plus de 1646 kilos de cocaïne, 232 kilos de méthamphétamine, détaille le ministre de l'Intérieur. Vers un procès pour viol dans l'affaire Achraf Hakimi, du nom de ce joueur du PSG accusé par une jeune femme pour des faits survenus en 2023. Le parquet de Nanterre demande le renvoi devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine de l'international marocain. Lui conteste les réquisitions du procureur, son avocate, Maître Fanny Collin.
Ce que je comprends de la position du parquet qui représente l'accusation, c'est qu'il se fonde exclusivement sur les déclarations de l'accusatrice. Et les seules déclarations de surcroît qui ont été remises en cause dans le cadre de l'enquête par les investigations menées ne peuvent pas constituer une charge suffisante pour solliciter un procès. C'est en tout cas la position de la défense d'Achraf Hakimi. Il est serein comme à l'ouverture de la procédure parce qu'il sait, lui, qu'il n'a rien à se reprocher. Et il sait également que les éléments de l'enquête vont dans son sens et dans le sens de sa parfaite innocence. Le magistrat instructeur prendra une décision. Et si le magistrat devait suivre les réquisitions du parquet que nous jugeons incompréhensibles et insensées, eh bien naturellement, nous exercerons toutes les voies de recours.
Maître Fanny Collin est charge maintenant au juge d'instruction donc de décider ou non d'un procès dans cette affaire. Et puis des signalements visant la ministre de la Culture, Rachida Dati, sont analysés par le parquet de Paris et le parquet national financier. Ils concernent des bijoux GDF Suez et un outrage à magistrat. Le dernier signalement a été transmis fin juillet par un militant écolo anticorruption après une charge de la ministre contre les magistrats sur l'antenne de LCI lors d'une interview. Elle vilipendait les magistrats qui marchent sur les droits de la défense à propos de l'affaire Carlos Ghosn dans laquelle elle est mise en examen. Trouver un logement social n'est déjà pas chose simple, mais le trouver à un tel prix s'avère impossible. En Allemagne, à une heure de Munich, en Bavière, les plus anciens logements sociaux au monde, créés en 1521, sont aussi les moins chers. Le Fugrei d'Augsbourg, des maisons accueillant 150 personnes dans le besoin. Le loyer, Sébastien Baer, n'a pas bougé depuis 500 ans.
Le buste du fondateur trône dans le jardin et son portrait est accroché dans presque chacun des 142 logements. Jakob Fugger, commerçant fortuné et bienfaiteur, c'est lui qui a fixé, il y a 500 ans, le montant du loyer.
88 centimes par an.
Daniel Obaum, l'administrateur.
À l'époque, c'était un florin rhénan. On l'a converti en euros et depuis, on ne l'a jamais augmenté. Les résidents doivent faire 3 prières par jour. Cela fait aussi partie du loyer, en quelque sorte.
Rosie, 81 ans, occupe depuis 16 ans le premier étage de l'une des maisons, au mur ocre et volet vert, la retraitée touche 784 euros de pension mensuelle.
Je n'avais pas d'autre alternative. Sans la Fugerei, je dormirais sous les ponts. C'est aussi simple que ça. C'est génial ce que Jakob Fugger a imaginé il y a 500 ans. Habiter ici, c'est comme gagner au loto.
Les candidats doivent patienter 3 à 5 ans avant d'obtenir un logement. Doris Herzog est chargée d'examiner les dossiers.
Il y a 3 critères. Il faut habiter à Augsbourg depuis au moins 3 ans. Être catholique. Je demande à la paroisse si la personne est enregistrée comme membre de la communauté. Et il faut être dans le besoin.
Parfois, grâce à un héritage ou à un emploi, la situation économique d'un résident s'améliore. Dans ce cas, la personne est priée de laisser sa place. À Augsbourg, Sébastien Baer, France Inter.
Le Japon sous une chaleur de plomb. Le pays a connu son mois de juillet le plus chaud depuis 1898 jusqu'à plus de 41 degrés enregistrés dans la région occidentale de Hyōgo. Et la vague de chaleur n'est pas terminée. France Inter, 13h14. L'étape juge de paix du Tour de France Femmes à suivre dans quelques minutes. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Vous êtes sous la pluie au sommet du col de la Madeleine en Savoie, arrivé de cette étape reine du Tour Femmes. On espère, Fanny, aujourd'hui une victoire française de Pauline Ferrand-Prévot.
Tout le monde l'espère. Je peux vous dire que ce matin, au départ à Chambéry, il y avait énormément de monde autour du car de son équipe, la Visma Lise Bike. Tout le monde voulait prendre une photo de Pauline Ferrand-Prévot. Après, cela reste l'inconnu du jour. Hein. On le rappelle, Pauline Ferrand-Prévot avait quitté le cyclisme sur route il y a 13 ans pour se consacrer au VTT, avec bien sûr ce titre de championne olympique il y a un an à Paris. Elle est revenue en gagnant notamment Paris-Roubaix. Pauline Ferrand-Prévot, est-ce qu'elle est capable de remporter le Tour de France? Elle est ce matin deuxième au classement général à 26 secondes de Kim Lecort, la maillot jaune. Mais attention, il y a d'autres favorites. On pense à Demi Vollering, on pense à la tenante de l'an dernier, Kezia Niewiadoma. Donc en revanche, ce soir, on aura une réponse. On saura qui a déjà perdu le Tour de France au terme d'une étape qui s'annonce très très difficile.
Eh bien, on prend rendez-vous avec vous, Fanny Lechevestrier, ce soir avec Hélène Langlois pour les moyens techniques. Arrivée prévue aux alentours de 17h30. On surveille aussi cet après-midi la potentielle cinquième médaille française aux Mondiaux de natation de Singapour. Maxime Grousset dispute la finale du 100 mètres papillon dans quelques minutes. Le nageur a signé le troisième temps des demi-finales. La météo.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Fabien.
Le temps reste contrasté.
Oui, la perturbation persiste dans le ciel du nord-est, notamment entre la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Franche-Comté et le Jura, cantonné à un ciel très nuageux et à des averses parfois orageuses. Mais plus on se dirige vers l'Île-de-France et plus les averses s'estompent. À l'arrière, ça s'améliore nettement sur le quart nord-ouest où des éclaircies s'imposent du Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne en passant par les Pays de la Loire, comme sur les côtes atlantiques où l'après-midi s'annonce lumineux. Plus au sud, c'est grand soleil aussi, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Méditerranée, sous un mistral et une tramontane jusqu'à 60 km par heure entre le Languedoc, la vallée du Rhône et le littoral corse, où la prudence reste de mise en raison du risque d'incendie élevé. Seul le relief du Mercantour, de l'est des Pyrénées et de la Corse pourront traverser quelques ondées ou orages isolés.
Et les températures restent bien timides.
Oui, on sent une fraîcheur dans la moitié nord avec des maximales comprises entre 20 et 25 degrés. 22 degrés prévus à Strasbourg, 24 dans la capitale et 25 à Nantes. Au sud, vous pouvez compter 25 à 30 degrés en moyenne pour votre après-midi avec des pics à 32 degrés entre le Languedoc et la Provence.
Prévision météo signée Magali Rochereau.
Vivez l'été en musique sur France Inter.
Coucou, c'est Mehdi Maizi. Je suis journaliste musical et j'ai tendance à parler de rap. Tous les samedis, je vous raconte la vie d'un artiste francophone à travers un album emblématique. SCH, Jul, Damso, Shai, Hamza et bien d'autres. Quels sont leurs parcours, leurs succès et qu'est-ce qui fait d'eux aujourd'hui des artistes incontournables?
L'heure du rap,
c'est tous les samedis à 17h sur France Inter et en podcast quand vous voulez sur l'appli Radio France.
IKEA.
Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée?
Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi?
J'en dis que vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement.
Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr.
France Inter, 13h18, très bon après-midi et voici Espion, une histoire vraie avec Stéphanie Duncan.
Merci, prochain point sur l'actualité à 14h.
Robert Scherrer, agente de inteligencia oficial de enlace del FBI en América Latina con sede en Buenos Aires.
Robert Scherrer était un agent du FBI, le service de police américain en charge entre autres du contre-espionnage. La grande affaire de sa vie fut son action en Amérique latine au début des années 1970, alors qu'il était en poste en Argentine, à l'ambassade des États-Unis à Buenos Aires. En pleine guerre froide, il a joué un rôle clé dans la collaboration secrète entre les services de renseignement de son pays et ceux des dictatures d'Amérique latine, dans la lutte sans merci menée à cette époque contre les dissidents et les opposants de gauche. Guillermo Garín, un ancien général chilien, se souvient.
Nous, le gouvernement militaire et particulièrement le général Pinochet, luttions contre le terrorisme.
À lui seul, l'agent Robert Scherrer incarne toute l'ambiguïté des États-Unis dans ce qu'on appelle l'opération Condor, une campagne secrète de répression politique et de terrorisme d'État
menée de manière concertée par les dictatures militaires des pays du sud de l'Amérique latine. Initiée en 1975 par le Chilien Augusto Pinochet, une politique criminelle impitoyable, menée conjointement par l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil et la Bolivie, qui pendant plus de 10 ans a conduit à l'enlèvement ou à l'assassinat d'environ 30 000 personnes.
Oli, qu'est-ce qui se passe? Vous obéissez.
Traqué dans différents pays d'Amérique latine, mais aussi jusqu'aux États-Unis ou en Europe. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 que des magistrats, en enquêtant sur le général Pinochet, feront la lumière sur l'opération Condor. En Argentine, à l'époque, une blague au goût amer courait à propos de Robert Scherer. On disait que ce mystérieux agent du FBI était une centrale de renseignement à lui tout seul, bien meilleure que la CIA, pour dénicher des renseignements et informer Washington sur ce qui se passait réellement en Amérique latine.
Nous, nous combattions le communisme. Importé de la Russie ou de l'URSS à l'époque, qui, via Cuba, avait pratiquement installé son armée ici.
Les cibles de l'opération Condor étaient des militants révolutionnaires, des hommes politiques, mais aussi de simples citoyens, enseignants, syndicalistes, étudiants, journalistes, prêtres, religieuses, tous suspectés d'avoir des opinions subversives. En 1978, une Chilienne raconte pour la télévision française l'arrestation 3 ans plus tôt de son mari, dont elle est toujours sans nouvelles.
C'était le couvre-feu, personne dans la rue, sauf la police. Quand soudain, on a frappé fortement à la porte et je me suis réveillée. On a entendu « police, police ». Mon époux n'avait pas fini de s'habiller quand ils sont entrés. « Nous allons l'emmener, madame ». C'est la tragédie d'un an et 3 mois, depuis le 4 novembre 1975. Depuis cette date, je ne sais rien. Il n'y a pas une porte, pas un lieu du gouvernement que nous n'ayons pas parcouru. Partout.
Quelles étaient ces idées politiques ou quelles sont ces idées politiques?
De gauche. Je ne peux pas vous dire que nous étions de droite, car nous sommes des travailleurs.
Beaucoup de ces personnes arrêtées ont disparu sans laisser la moindre trace, probablement après avoir été torturées et assassinées. On se souvient des images des mères et des grands-mères argentines qui, jusque dans les années 2000, manifestaient tous les jeudis sur la place de Mai à Buenos Aires pour réclamer leurs enfants et petits-enfants disparus pendant la dictature. Il faudra des décennies pour qu'un début de lumière se fasse sur l'opération Condor. Robert Scherer est un paradoxe à lui tout seul. Même si, contrairement à d'autres agents du FBI, il n'était pas lui-même un tortionnaire, il a été pendant plusieurs années un agent actif, un complice des dictatures dans leur politique meurtrière. Mais il est aussi celui qui, plus tard, révélera au monde l'existence de l'opération Condor et qui deviendra pour les défenseurs des droits humains la meilleure source de renseignements sur les dictatures d'Amérique latine. Des révélations qui, en 1998, enfin, permettront l'arrestation à Londres du général Pinochet, le grand chef d'orchestre de l'opération Condor.
Augusto Pinochet, ancien dirigeant du Chili, s'est vu refuser l'immunité diplomatique. Un verdict accueilli par une explosion de joie par les quelques 200 manifestants massés devant le Parlement. Chiliens, parents des victimes de la répression, citoyens d'Amérique du Sud ou militants, leur joie est totale.
C'est pas grand-chose de la jeunesse de Robert Scherer, sinon que cet Américain d'origine allemande et irlandaise est né en 1935 à New York, dans le quartier populaire de Brooklyn.
Brooklyn, across the river.
Brooklyn, de l'autre côté du fleuve.
City of friendly people, sometimes called Dodgerville.
La ville peuplée de gens sympathiques, appelée aussi Dodgerville.
Three great bridges span the East
Trois grands ponts enjambent l'East River, reliant Brooklyn au sud de Manhattan.
Il étudie à Fordham, une université catholique prestigieuse de New York. Mais au bout de 3 ou 4 ans, lassé des études ou contraint de gagner sa vie, Robert Scherer s'engage dans la marine. C'est peu de temps après, dans les années 1950, qu'il entre au FBI.
Le FBI, Federal Bureau of Investigation, créé en 1908, est aux États-Unis le principal service fédéral de police judiciaire. Mais ses attributions comprennent également le renseignement intérieur et le contre-espionnage. Alors que la CIA, qui ne sera créée qu'en 1947, est chargée du renseignement extérieur. Le FBI est indissociable de son chef, le sulfureux et tout-puissant John Edgar Hoover, qui dirige le bureau depuis 1924 et, malin, réussira à demeurer à ce poste jusqu'à sa mort en 1972, c'est-à-dire pendant 48 ans. Très populaire, incontournable, pour ne pas dire intouchable, Hoover est reconnu pour son pragmatisme, son efficacité, malgré l'usage de méthodes controversées, brutales, voire illégales. Le voici dans les années 30, dans un film de la télévision américaine. Assis à son bureau, Edgar Hoover, bras croisés, le regard sévère, explique aux Américains ce qu'est le FBI.
Il n'y a pas de mystère dans la manière dont travaille le FBI. Sa formule est simple. Entraînement intensif, un personnel recruté avec soin et très efficace, et en plus une exigence ferme concernant la conduite, l'intelligence et l'intégrité.
Pour quelle raison le jeune Robert Scherer choisit-il d'entrer au FBI ? Par patriotisme ou par goût de l'enquête ? On ne sait pas. Peut-être partage-t-il l'obsession anticommuniste de son chef charismatique. Ou plus simplement, l'ex-étudiant voit dans le FBI la perspective d'une carrière assurée et d'un bon salaire. Car dans les années 50, le service recrute. Dans un étonnant reportage de la télé française en 1964, Georges de Caunes interroge Larry, un agent du FBI, sur son métier.
Nos agents spéciaux ont une formation universitaire et c'est demandé que notre vie, la vie de chaque agent de FBI, soit impeccable et irréprochable. Il faut dire que nos recrues doivent avoir au moins 23 ans et pas plus que 40 ans. Notre recrue doit mesurer 1m70. Aussi, nos agents doivent avoir un poids assez fixe, c'est-à-dire doit correspondre à son taille. Et un agent qui est déjà, un recours qui est déjà devenu agent, il grossit un peu, il risque d'être envoyé. Et même un agent fut-il placé dans les places les plus hautes.
De Robert Scherer, personnage resté longtemps secret et pour cause, on ne possède qu'une photo en noir et blanc. L'agent est au téléphone, un téléphone à fil bien sûr, assez bel homme, regard concentré, cheveux courts, mèche sage, chemise stricte, cravate tricotée. Propre sur lui, Robert Scherer semble tout droit sorti d'un film américain des années 60. Ses premières missions, il les accomplit à New York, à Washington, puis, un peu plus exotique, à Porto Rico, territoire américain des Caraïbes. C'est peut-être lors de ce séjour que notre rouquin d'origine germano-irlandaise apprend l'espagnol. Et comme bientôt il parle un espagnol quasi parfait, en 1969, Scherer est envoyé un peu plus au sud, en Argentine, capitale Buenos Aires.
Buenos Aires, más de 8 millones de habitantes.
Buenos Aires, plus de 8 millions d'habitants. La ville est constamment visitée par des hommes et des femmes de toutes les latitudes de la Terre.
À Buenos Aires, Robert Scherer a son bureau à l'ambassade des États-Unis. Officiellement, il y occupe le poste de legal attaché, chargé d'affaires juridiques. Un terme flou qui désigne en réalité une fonction précise du FBI. Le legal attaché, il y en a d'autres en Amérique latine et dans le monde, a pour mission en principe de collaborer avec la police locale afin d'obtenir des renseignements sur des crimes ou des criminels qui pourraient mettre à mal des citoyens ou des intérêts américains. Robert Scherer sera donc en poste à Buenos Aires de 1969 à 1975. 6 ans seulement. Et des années charnières pour la collaboration, souvent secrète, entre les États-Unis et l'Argentine d'abord. car les deux pays ont un ennemi commun. Cuba. Le Cuba de Fidel Castro. Cuba, véritable bombe dans la zone d'affluence des Américains depuis le virage pro-soviétique pris par Castro au début des années 1960. Et Cuba, pire cauchemar aussi des dictateurs sud-américains qui redoutent, comme la peste, la propagation des idées révolutionnaires sur leur continent. L'Argentine est donc en alerte. Lorsque Scherer débarque à Buenos Aires en 1969 avec sa femme, Rosemary, cela fait 3 ans qu'une dictature militaire dirige le pays. Le Parlement, les partis politiques ont été dissous. Tout le pouvoir est concentré entre les mains du général Onganía, obsédé par la menace communiste. Censure, répression policière, droit de grève supprimé, le pays est quadrillé. C'est l'année suivante que l'hystérie anticommuniste en Amérique latine va monter violemment d'un cran. Quand au Chili, pays voisin, le 4 septembre 1970, le socialiste Salvador Allende est élu démocratiquement président de la République.
Con motivo de la votación producida, el Congreso pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Goza. Se levanta la sesión.
Ce n'est pas la victoire d'un homme, mais la victoire du peuple et la victoire du Chili. Et c'est pour cela que le 4 novembre, le peuple entrera avec moi au palais de la Moneda.
La réaction américaine est immédiate. 10 jours plus tard, lors d'une réunion de crise à la Maison-Blanche, le conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, expose la situation au président Nixon.
L'élection d'Allende comme président du Chili est pour nous l'un des plus graves défis jamais subis dans cet hémisphère.
Convaincu que l'exemple chilien deviendra un nouveau Cuba, Richard Nixon déclare au directeur de la CIA:
si Allende réussit à mettre en œuvre une politique marxiste anti-américaine, d'autres en feront autant. En Amérique latine, mais aussi en Europe. Il faut donc sauver le Chili.
À Washington, un budget secret de 10 millions de dollars est débloqué pour destituer Allende. Un des premiers actes terroristes cautionnés par Nixon et l'assassinat du général chilien René Schneider. À éliminer, parce que ce démocrate est un obstacle majeur à un coup d'État militaire. Il ne faudra que 3 ans pour que cette politique de déstabilisation aboutisse. 11 septembre 1973.
France Inter, il est 19h.
Bonsoir. Le socialisme à la chilienne, expérience peut-être terminée, le président Allende est destitué par l'armée. Les informations, Ralph Pinto, qui parviennent actuellement de Santiago du Chili, sont, il faut le dire, fournies par les radios qui sont aux mains des militaires.
Oui, en effet, ces radios proclament aussi que l'armée contrôle la majeure partie du pays, que le président est destitué, que le couvre-feu est décrété, que l'état de siège est également appliqué. L'armée affirme qu'elle attaque le palais présidentiel après avoir demandé aux carabiniers de se retirer. Le Chili de la révolution tranquille, le Chili du premier président marxiste légalement élu en Amérique latine, va être obligé de changer, peut-être pas pour le meilleur.
Au Chili, dès le lendemain du putsch, des milliers de partisans d'Allende sont pourchassés, arrêtés et emprisonnés au mépris de toute procédure légale. Beaucoup sont torturés. Plus d'un millier d'individus sont exécutés sommairement.
Pitié, je vous en supplie.
Leurs corps ne seront jamais retrouvés.
Mais cette violente répression n'est qu'une première étape de la politique du régime qui se maintiendra au pouvoir au Chili jusqu'en 1990. Voici Augusto Pinochet, interviewé par la télévision allemande 9 mois après le coup d'État.
Combien de temps la junte va-t-elle rester au pouvoir, c'est la question. Nous n'avons pas fixé de délai de temps, nous nous sommes fixés des tâches à remplir. Nous avons un certain nombre d'objectifs à atteindre. Lorsqu'ils le seront, nous pourrons arriver à l'organisation d'élections libres.
À medida que nosotros vamos alcanzando los objetivos, nos vamos aproximando a llegar a las elecciones libres. Por lo demás.
De plus, un pays qui a été rongé pendant si longtemps par le cancer marxiste ne peut s'en délivrer en 2, 3 ou 6 mois. C'est une question de temps pour que les gens comprennent qu'ils ont plus à gagner d'un système de liberté que du totalitarisme marxiste.
Le couvre-feu vient de rentrer.
Le dictateur ne se contente pas en effet d'avoir pris le pouvoir. Il veut éradiquer toute trace des partisans d'Allende, au Chili, mais aussi hors du Chili. France Inter, le 30 septembre 1974.
À Buenos Aires, en Argentine, le général Carlos Prats a été tué par une bombe placée sous le capot de sa voiture. L'attentat a également coûté la vie à son épouse. Ancien commandant en chef de l'armée chilienne et ministre de la Défense, sous la présidence de M. Salvador Allende, le général Prats ne semblait avoir aucune activité politique depuis son arrivée en Argentine, après le renversement du gouvernement Allende.
Un attentat, on le sait aujourd'hui, commis avec la complicité de la CIA. Robert Scherer, agent du FBI, est en poste en Argentine à l'ambassade américaine de Buenos Aires de 1969 à 1975. Au poste officiel d'attaché juridique, il collabore avec les services secrets des dictatures militaires d'Amérique du Sud dans la lutte qu'elle mène contre les opposants politiques, notamment depuis le coup d'État au Chili en 1973. Il fait partie des agents américains qui vont aider le Chili de Pinochet à pourchasser ses opposants hors de ses frontières. En Argentine, mais aussi dans les pays voisins, où Scherer se rend régulièrement, en touriste, avec sa chère épouse Rosemary. Mais surtout, l'agent du FBI s'est constitué un important carnet d'adresses au Chili, en Uruguay, en Bolivie, mais aussi au Paraguay.
Ce pays, situé au nord-est de l'Argentine, dirigé d'une main de fer depuis 1954 par le dictateur Alfredo Stroessner, soutenu lui aussi par les États-Unis.
Paix, travail et bien-être avec Stroessner. Cette enseigne domine le centre d'Asunción depuis 18 ans. Le 5 mai 1954, le 22e coup d'État depuis le début du siècle, avait fait du général d'artillerie Don Alfredo Stroessner le président de la République du Paraguay. Gare à ceux qui ont la tentation de contester ce bonheur établi. Ceux-là sont automatiquement traités de communistes.
Un syndicaliste paraguayen réfugié en France témoigne en 1964 dans le même reportage.
Me llamo Antonio Sotomayor. Soy casado, tengo cuatro hijos.
Je m'appelle Antonio Sotomayor. Je suis marié, j'ai quatre enfants.
Fui apresado en la campaña por actividades sindicales.
J'ai été arrêté à la campagne pour activités syndicales. Puis on m'a ramené au centre d'investigation où j'ai été torturé avec des méthodes héritées des criminels nazis.
Por métodos que heredaron de los criminales nazis. Como es la picana eléctrica, la bañera donde uno les...
On vous plonge par exemple dans une baignoire pleine d'excréments et d'urine jusqu'à l'asphyxie. Et puis on recommence jusqu'à ce qu'on avoue ce qu'ils veulent vous faire avouer.
Perder prácticamente la respiración, lo sacan para luego de reanimarlo un poco, volverlo a sumergir.
J'ai passé 8 ans en prison et je ne suis jamais passé en jugement, comme tous les prisonniers qui sont encore dans les commissariats du Paraguay.
Dans ces conditions, sont tous les presos politiques. Que actualmente aún quedan en las prisiones del Paraguay.
À Asunción, la capitale du Paraguay, Robert Scherer rencontre régulièrement deux sinistres individus, le général Benito Guanes, le chef du service de renseignement de l'armée, et Pastor Coronel, le chef de la police, un tortionnaire redouté pour son centre d'interrogatoire, surnommé El Sepulcro de los Vivos, le tombeau des vivants. Un homme pourtant que Scherer a pris l'habitude de tutoyer. On va le voir, c'est grâce à la collaboration de Scherer, de l'Argentine et du Paraguay, que la DINA, la police secrète chilienne, dirigée par Manuel Contreras, va mettre la main sur des opposants politiques. Le premier d'entre eux, Jorge Fuentes Alarcón, sociologue chilien, membre du comité central du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, une organisation chilienne d'extrême gauche, pourchassée depuis le coup d'État. Le 16 mai 1975, Jorge Fuentes Alarcón quitte Buenos Aires, où il vit en exil, pour se rendre au Paraguay. Un voyage de 10 heures en autocar, en compagnie d'Amilcar Santucho, un militant argentin. Tous deux sont missionnés pour prendre contact avec les révolutionnaires du Paraguay. L'objectif, créer une organisation clandestine qui rassemblerait toutes les forces d'extrême gauche d'Amérique latine. Son nom, la JCR, Junte de coordination révolutionnaire. En unissant leurs forces, ces révolutionnaires sud-américains veulent lancer la lutte armée contre les dictatures militaires. Les deux hommes ont sur eux de fausses pièces d'identité. Mais à peine l'autocar a-t-il franchi la frontière du Paraguay que la police monte à bord et passe les menottes à Santucho. Quant à Fuentes Alarcón, il est arrêté le lendemain à son hôtel à Asunción et emprisonné. Pendant 6 mois, les deux militants seront interrogés et torturés par la police paraguayenne, mais aussi par des Uruguayens, des Argentins et des Brésiliens. On a bandé leurs yeux, mais les prisonniers reconnaissent les accents de leurs tortionnaires. Dans une pièce à côté de la salle d'interrogatoire, au fur et à mesure des renseignements arrachés sous la torture aux prisonniers, un homme, qui ne peut pas ignorer ce qui se passe de l'autre côté du mur, prend des notes. Robert Scherer, bien sûr, qui a pris le premier avion pour Asunción dès que Pastor Coronel l'a informé de cette importante arrestation. Sous la torture, au fil des semaines, les deux prisonniers dévoilent leur véritable identité, leurs activités et surtout l'existence de la JCR. Des carnets trouvés sur eux révèlent les noms et les adresses de plusieurs de leurs camarades. Consciencieusement,
l'agent du FBI transmet ses renseignements à ses chefs à Washington.
Selon les informations qu'il a fournies au cours de divers interrogatoires menés par la police à Asunción, le sujet a reconnu être membre de la JCR et faire office de messager pour cette organisation.
Aux États-Unis, le FBI ouvre alors une enquête. Et quelques jours après, la sœur de Jorge Fuentes Alarcón, qui vit en exil au Texas et dont le nom apparaissait dans le carnet d'adresse, a la surprise de recevoir la visite chez elle d'un agent du FBI.
Vous êtes bien Sonia, la sœur de Jorge Fuentes Alarcón?
Oui.
Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il a déjà vécu ici avec vous?
Non, je ne l'ai pas revu depuis qu'il a quitté le Chili. C'était plusieurs années avant le coup d'État. Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions?
L'agent du FBI s'en va, sans informer la jeune femme que son frère vient d'être arrêté au Paraguay et subit des tortures quotidiennes. Elle n'apprendra sa disparition que bien des années plus tard. Mais Robert Scherrer n'informe pas que le FBI. En cela, sa responsabilité est énorme. Il transmet ses renseignements aussi au Chili. Il écrit une lettre au général Ernesto Baeza, le directeur général d'investigation à Santiago, l'informant qu'il peut disposer du Chilien qui a été arrêté. Suite logique de cette lettre, quelques jours après, des agents de la DINA viennent au Paraguay chercher Fuentes Alarcón et le ramener au Chili. À Santiago, le militant du MIR sera détenu et torturé à la sinistre Villa Grimaldi, une ancienne boîte de nuit transformée en centre de détention, avant de disparaître pour toujours. Amilcar Santucho, arrêté avec lui, aura plus de chance. Resté au Paraguay, il sera extradé 4 ans plus tard vers la Suède. La lettre confidentielle envoyée au Chili par Scherrer est conservée aujourd'hui dans les archives de la Sécurité nationale à Washington. Son existence ne sera révélée qu'en 1999 par un journaliste du New York Times. Tapée à la machine, datée du 6 juin 1975, avec en en-tête « Ambassade des États-Unis à Buenos Aires, Argentine », écrite en espagnol dans des termes très courtois, cette lettre est d'une importance historique capitale. Elle est en effet la première preuve officielle de la collaboration active des États-Unis avec les services de renseignement des dictatures sud-américaines.
Vous suggérez qu'il pourrait y avoir une sorte de programme américain d'assistance à la police. Je voudrais que vous sachiez que rien de semblable n'existe dans ce pays.
Et accessoirement, elle révèle aussi le rôle clé joué par l'agent Robert Scherrer. En informant les services secrets chiliens, cet homme s'est fait complice de la torture et de la mort de Fuentes Alarcón. Des années plus tard, en 1979, Robert Scherrer acceptera de parler à John Dinges, un journaliste d'investigation américain qui enquête alors sur les crimes de Pinochet. C'est Scherrer qui, avec honnêteté, lui révélera l'affaire Fuentes Santucho. L'agent du FBI tentera de se justifier d'avoir livré Fuentes aux Chiliens en affirmant qu'à ses yeux, il avait fait son devoir. Car à l'époque, dans le jargon américain, Fuentes était un terroriste. Mais Scherrer ajoutera
« Il fallait l'arrêter, mais il aurait dû être jugé. Pas torturé, pas massacré. »
Mais revenons à l'été 1975. Quand les renseignements extorqués sous la torture à Fuentes et Santucho arrivent au Chili sur le bureau de Pinochet, les révélations sur les projets de lutte armée de la JCR alimentent la paranoïa du dictateur. Il ne doute pas que la JCR, avec le soutien de révolutionnaires du monde entier, s'apprête à commettre des actions terroristes de grande envergure pour prendre le pouvoir en Amérique du Sud. Ces projets sont bien réels. Mais on le sait aujourd'hui, leur réussite, dès le début, était peu vraisemblable. La capacité opérationnelle et l'influence de la JCR ont été largement surestimées par Pinochet et ses alliés. Il n'empêche,
le Chili organise la contre-attaque. 26 novembre 1975, à Santiago du Chili. Il fait beau et chaud en ce début d'été austral. À l'école de guerre, une belle villa sur l'Alameda, la plus grande avenue de la capitale, Augusto Pinochet et Manuel Contreras ont invité à une réunion secrète les chefs du renseignement des pays voisins, Uruguay, Paraguay, Bolivie, Brésil et Argentine. L'objectif, leur soumettre un plan d'action coordonné et efficace pour frapper et abattre leurs ennemis communs, où qu'ils soient dans le monde, et anéantir le communisme international. Les moyens, collecte et échange de renseignements, utilisation des technologies de pointe, téléx, microfilm, ordinateur, cryptographie, mais aussi ce que, dans le jargon, on appelle des opérations.
Adelante.
Autrement dit, des enlèvements, des interrogatoires avec torture et des assassinats ciblés. La collaboration internationale, initiée avec l'arrestation de Fuentes et Santucho, va donc se généraliser et prendre une ampleur inédite. Deux jours plus tard, le 28 novembre 1975,
asseyez-vous.
Les cinq chefs du renseignement invités par Pinochet acceptent le projet chilien et signent la résolution finale. Mais avant de se quitter, ils doivent donner un nom à leur nouvelle organisation secrète, véritable machine à tuer. Ce sera Opération Condor, en référence au grand rapace des Andes. Le condor, oiseau de proie, charognard et symbole national du Chili. Désormais, les dictatures d'Amérique du Sud sont prêtes à mener ce qu'on appellera leur sale guerre. Immédiatement et pendant des mois, les opérations menées par des escadrons de la mort se succèdent. Des révolutionnaires chiliens et uruguayens sont assassinés. Des dirigeants politiques aussi sont visés. En juin 1976, le corps de Juan José Torres, ex-président socialiste de la Bolivie, est retrouvé sans vie, criblé de balles, sous un pont en Argentine. Mais l'opération Condor, très vite, passe à la vitesse supérieure, n'hésitant pas à agir hors d'Amérique latine, même chez son allié. Antenne 2, le 22 septembre 1976.
Orlando Letelier, ancien ministre du président chilien Allende, a été assassiné par la police secrète de Pinochet. Ce sont les représentants de l'opposition chilienne en exil qui l'expliquent. Pour l'instant, évidemment, rien ne permet de le prouver. Monsieur Letelier a été tué hier à Washington par l'explosion d'un engin qui a détruit son automobile. Le FBI ne lui avait jamais accordé la protection particulière qu'il demande.
Le 21 septembre 1976 à Washington, dans le quartier huppé des ambassades, le Chilien Orlando Letelier, ancien ministre de la Défense de Salvador Allende et figure de l'opposition en exil, meurt dans un attentat à la voiture piégée. De même que son assistante américaine, Ronnie Moffitt, 25 ans. Cet attentat, commis en plein cœur de la capitale, crée une vive émotion aux États-Unis. C'est le premier cas de terrorisme international commis sur le sol américain. Des voix s'élèvent pour réclamer la vérité, tandis que des milliers de manifestants, avec à leur tête la chanteuse Joan Baez, assisteront aux funérailles d'Orlando Letelier. C'est dans cette affaire que nous retrouvons Robert Scherrer, l'agent du FBI, qui a quitté en 1975 son poste de Buenos Aires, participe à l'enquête en tant que spécialiste de l'Amérique latine. Et les renseignements qu'il va fournir vont jouer un rôle capital. Robert Scherrer, qui on l'a vu a collaboré activement avec les dictatures sud-américaines, eh bien c'est lui qui va révéler au monde l'existence de l'opération Condor, alors totalement inconnue. Le 28 septembre 1976, soit une semaine seulement après l'attentat, Robert Scherrer rédige un rapport connu sous le nom de Cable Chilbom.
Opération Condor est le nom d'une opération regroupant la collecte, l'échange et le stockage d'informations, qui a été mise en place récemment par plusieurs services de renseignement en Amérique du Sud afin d'éliminer les activités terroristes des marxistes de cette région. Le Chili est le pays référent pour l'opération Condor.
Robert Scherrer termine son rapport avec une information capitale qui éclaire l'attentat contre l'hôtelier d'une lumière nouvelle.
Une troisième phase, la plus secrète de l'opération Condor, prévoit la formation d'équipes spéciales des pays membres chargées de voyager partout dans le monde afin de réprimer, par des actions allant jusqu'à l'assassinat, les terroristes ou les partisans d'organisations terroristes.
Grâce à Scherrer, Washington apprend donc l'existence d'une phase 3 de l'opération Condor, prête à commettre des assassinats dans le monde entier, Europe et États-Unis compris. Ce rapport, qui jette une lumière crue sur la réalité des pratiques de ces dictatures, permettra d'arrêter les meurtriers d'Orlando Letellier. Et en 1996, il servira de preuve, la seule preuve alors disponible, lorsque 3000 familles de victimes et de disparus porteront plainte contre Pinochet. Mais en 2003 encore, le Chilien Manuel Contreras s'obstinera à nier.
L'opération Condor est une falsedad qui n'existe.
L'opération Condor est un mensonge qui n'a jamais existé.
Mais le rapport de Robert Scherrer interroge. Il laisse supposer qu'en 1976, le gouvernement américain ne sait rien de l'opération Condor. Est-ce crédible ? Pour le journaliste John Dingus, il ne fait aucun doute que Washington connaissait dès 1975 l'existence de cette organisation secrète. Pour John Dingus également, les Américains savaient que les Chiliens projetaient des assassinats à l'étranger. Kissinger aurait ordonné à Pinochet de ne pas les exécuter. Mais, incompréhension ou désobéissance, ces ordres n'ont pas été entendus. Robert Scherrer est donc le premier en 1976 à lever le voile sur l'opération Condor. Depuis, des journalistes, des militants de droits de l'homme, des familles de personnes disparues, des avocats, des juges, se sont battus, parfois au risque de leur vie, pour faire éclater toute la vérité et pour que les criminels soient jugés. Robert Scherrer prend sa retraite en 1988. Mais l'année suivante, à Washington, l'ancien agent du FBI, désormais handicapé et se déplaçant en chaise roulante, se voit remettre un prix pour son combat pour les droits humains des mains d'Isabelle Letellier, la veuve d'Orlando Letellier.
Robert Scherrer n'est pas un dissident ni un lanceur d'alerte. Il est juste un homme extraordinaire et honnête qui a permis de faire la lumière sur l'assassinat d'Orlando et également d'aider beaucoup de personnes en Amérique latine.
Des honneurs assez rares pour un agent du FBI. Étonnant personnage que ce Robert Scherrer, observateur et acteur d'une pièce complexe où les idéaux et les réalités se heurtaient brutalement. L'idéal américain de la démocratie et des droits de l'homme et la réalité de la guerre froide qui a poussé les États-Unis à soutenir des régimes criminels perçus comme des remparts contre le communisme. Robert Scherrer meurt en 1995 à l'âge de 60 ans. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Réalisation Audrey Ripouille, documentation Frédéric Martin, mixage Basile Beaucaire et Baptiste Collion, avec les comédiens Lise Combe, Grégoire Roqueplot et Grégoire Leprince-Ringuet. Après le Flash, ce sera Histoire de voix, une nouvelle série des radios francophones publiques qui explore les mystères du plus bel instrument de musique qui soit, la voix humaine.
IKEA.
C'est terminé. Eh oui, quelle défaite.
Bah, tu vas où?
Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin.
À 16h?
Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est trois lettres pour une révolution de la radio.
DAB+. DAB+.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-DAB+.fr.
Besoin de faire le plein d'énergie ? EDF vous a concocté le jus de l'été. Alors, je prends un service client haut de gamme, j'ajoute des kilowattheures pour la puissance, j'enlève quelques euros pour la légèreté, je mélange, et voilà, c'est plein d'énergie.
En ce moment, profitez de jusqu'à moins 6% sur le kilowattheure hors taxe par rapport au tarif réglementé avec une qualité de service numéro 1 du secteur. Étude Bearing Point et Kantar, catégorie entreprise de service. Infos et conditions sur edf.fr/nos offres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter, sur les assistants vocaux,